L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, hein, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés.
Patriarca, patrie, patriarca, patrie.
Et donc, nous sommes sur Sortir du patriarcapitalisme dans une nouvelle émission consacrée aujourd'hui à la grossophobie. Et pour en parler, nous sommes avec Solène Karoff, notre invitée, maîtresse de conférences en sociologie à Paris-Sorbonne et autrice sur ce sujet de plusieurs articles et d'une thèse en 2015. Donc bonjour Solène Karoff.
Bonjour.
Et nous sommes également avec Sophia, la co-animatrice habituelle de cette émission.
Bonjour.
Alors Solène Karoff, vous avez écrit plusieurs articles et une thèse donc, sur cette question de la grossophobie, qui est une question qui est en sociologie, mais aussi finalement dans la critique sociale, un sujet un peu sous-estimé, sous-traité, un peu marginal, alors que finalement la grossophobie, c'est une oppression et une discrimination qui touche quand même une partie importante de la population française, mais plus généralement mondiale. Donc est-ce que vous pourriez commencer du coup par nous expliquer en quoi est-ce que, selon vous, la grossophobie est un système d'oppression et de discrimination qui a des effets matériels qu'on peut objectiver, notamment en tant que sociologue, et en quoi est-ce que ce système d'oppression et de discrimination touche particulièrement les femmes, puisque, évidemment, c'est une question qui nous intéresse particulièrement à sortir du patriarcat-capitalisme.
En France, c'est vrai que ça fait seulement une vingtaine d'années, un peu plus, qu'il y a vraiment des travaux consistants sur le sujet. Ce qui est assez étonnant, je suis d'accord avec vous, mais je pense que ça révèle surtout l'idéologie dominante et la norme de minceur de notre société. Donc, qu'est-ce que c'est que la grossophobie ? Alors déjà, il faut savoir que c'est un terme qui a été un petit peu revendiqué par les associations et les militantes dès les années 90 et qui a été utilisé principalement par les militantes jusqu'à il y a quelques années, et maintenant ça commence à rentrer à la fois dans l'usage public, l'usage médiatique, mais aussi plus récemment dans le dictionnaire, donc on voit un peu la progression du combat des militantes. Alors qu'est-ce que c'est que la grossophobie ? C'est un système d'oppression et de stigmatisation et de discrimination dans la vie des personnes qui sont étiquetées comme grosses, gros ou grosses, ou qui se définissent comme telles. Donc, pour donner quelques exemples, alors la stigmatisation, on a plus l'idée de ce que c'est. Ce sont souvent des petites remarques, des insultes, des commentaires faussement bienveillants qui peuvent avoir des répercussions quand même dans la vie quotidienne des individus parce qu'elles peuvent, du coup, ces personnes-là s'auto-censurer, éviter d'aller dans certains endroits, éviter de faire des activités par peur, justement, de ces remarques, de ces regards, de ces insultes. Mais il y a aussi un système de discrimination, alors là qui concerne principalement la sphère médicale et la sphère professionnelle, mais qu'on peut retrouver aussi dans d'autres espaces, et qui là ont des conséquences matérielles directes pour les individus, puisque dans la sphère professionnelle, ça a comme conséquence que les personnes grosses ont un statut professionnel moins élevé que des personnes qui ne sont pas grosses, qu'elles ont des difficultés, par exemple, à accéder à certains types d'emplois ou qu'elles ont des difficultés à rebondir lorsqu'elles ont eu des périodes de chômage. Donc ça, il y a des données assez consistantes sur le sujet. Et dans la sphère médicale, ce sont souvent des dénis de soins, c'est des refus de soins ou même... On pourrait parler d'erreurs médicales dans certains cas où les médecins vont attribuer tous les problèmes de santé pour lesquels les gens viennent uniquement à la question du poids, alors qu'en fait, il y a des causes sous-jacentes qui n'ont pas forcément grand-chose avec le poids. Et dans ces cas-là, ça peut avoir des conséquences dramatiques pour les personnes. Et même dans les cas où c'est un lien direct avec le poids, les médecins, du fait de leur croyance grossophobe, vont parfois refuser ou mal soigner certains de leurs patients parce qu'ils sont gros. Et donc, ça peut avoir des conséquences évidemment dramatiques pour les personnes, notamment des retards de prise de soins, voilà, ou même des erreurs médicales qui font que certains médecins s'orientent vers certains diagnostics alors qu'en fait, ça n'a rien à voir et ça peut conduire malheureusement à des décès. Donc ça, c'est dans les cas les plus graves. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la stigmatisation et la discrimination peut potentiellement concerner toutes les personnes grosses, puisqu'on est dans un système, dans une société grossophobe, mais certaines parties de la population sont plus touchées par rapport à cette problématique, et c'est notamment le cas des femmes, ce qui peut s'expliquer par le fait que la société est profondément sexiste, mais également par le fait que le corps des femmes est de manière générale plus soumis au regard public par rapport à l'apparence physique des femmes, ainsi que plus souvent médicalisé. Voilà, ces deux dimensions de la médicalisation du corps et des normes esthétiques qui portent sur le corps des femmes et des normes alimentaires qui sont liées font que du coup les femmes sont souvent elles sont victimes de grossophobie comme les hommes, mais elles sont victimes plus tôt et de manière plus consistante, plus fréquente que les hommes, même pour des grosseurs qui ne sont pas forcément très élevées, alors que les hommes gros vont être discriminés et stigmatisés lorsqu'ils vont commencer à avoir des grosseurs vraiment très importantes. Et voilà, donc on voit qu'il y a une différence assez manifeste sur ce sujet-là. On peut vraiment constater des effets matériels évidents pour les personnes en termes de perte de chance, en termes de, voilà, d'accès aux soins, d'inégalité d'accès aux soins, mais aussi en termes de perte de revenus directs lorsque, du fait de l'obésité, les personnes ont du mal à accéder à des emplois qu'elles pourraient avoir selon leur niveau d'études, leur profession, etc.
Oui, et par rapport à la question de la stigmatisation, la stigmatisation peut aussi avoir des effets assez dramatiques en termes aussi de génération de troubles du comportement alimentaire, de comportement d'autorestriction. La grossophobie, comme vous le montrez, et ça touche du coup plus particulièrement les femmes, va générer chez les personnes perçues socialement comme grosses un rapport à la nourriture, au corps, qui les fait énormément souffrir et qui finalement, en général, ne fait que s'empirer puisque voilà, la grossophobie, évidemment, n'a pas d'incidence positive sur la santé des gens, contrairement à ce qu'elle essaye de faire croire avec son ton un peu paternaliste de « on va remettre les gens dans le droit chemin, on va faire en sorte qu'ils soient en bonne santé, qu'ils soient minces, etc. » Au contraire, elle aggrave vraiment la santé mentale et physique des personnes qu'elle opprime, et particulièrement les femmes.
Oui, ça c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que je pense qu'il faut faire attention avec ces termes de stigmatisation et discrimination, parce que bien sûr, la discrimination a un effet plus direct sur les individus, et souvent, c'est plus facilement montrable lorsqu'on fait des études statistiques dessus. Mais la stigmatisation peut avoir des conséquences aussi dramatiques pour les personnes, notamment parce que la stigmatisation peut commencer dès le plus jeune âge. Et souvent, les personnes grosses le sont depuis qu'elles sont toutes jeunes. Et voilà, et la stigmatisation familiale, notamment liée à l'apparence physique, aux normes alimentaires, etc., peut avoir des conséquences dramatiques, ou la stigmatisation dans le couple lorsque les personnes sont plus âgées. Et ce sont des situations qui vont souvent avoir pour conséquence, en fait, que les personnes vont soit effectivement développer des troubles du comportement alimentaire ou un rapport à l'alimentation extrêmement conflictuel, soit prendre du poids alors qu'elles ne le souhaitaient pas, soit aggraver des problèmes de santé parce que du coup elles ne vont plus oser, pareil, aller chez le médecin, etc., parce qu'elles auront honte de leur corps, soit voilà, avoir des conséquences également dans la sphère professionnelle lorsque ces personnes ne vont pas oser non plus, elles vont s'auto-censurer en fait des formes de stigmatisation. Moi j'ai rencontré plusieurs personnes qui ont eu ce cas de figure-là, et qui avaient tellement peur qu'on leur reproche leur corpulence qu'elles n'ont pas osé aller demander des postes ou des promotions parfois qu'elles auraient dû avoir et qu'elles auraient peut-être pu avoir du fait qu'elles étaient grosses et qu'elles avaient peur qu'on leur renvoie ça dans la tête, ce qui était une possibilité tout à fait plausible vu la violence de la société sur ce sujet en fait. Donc voilà, je pense que c'est important de différencier les deux, mais il faut faire attention à ne pas dire forcément que l'un est nécessairement plus grave que l'autre, puisque ça dépend des cas individuels. On va dire que globalement, d'un point de vue général, la discrimination a souvent des conséquences plus graves, mais en fait, dans la vie des individus, ce n'est pas toujours le cas, et même des gens qui n'ont pas été discriminés peuvent avoir des vécus extrêmement difficiles dans leur quotidien lorsqu'ils sont en permanence renvoyés à ça, que ce soit par, voilà, peu importe la personne qui leur parle, mais si à chaque fois que les gens leur parlent, ils les renvoient à leur corpulence, voilà, ça peut créer des situations extrêmement violentes et des situations extrêmement anxiogènes pour ces personnes-là.
Peut-être que dans notre société grossophobe, finalement, le poids ou la morphologie d'un individu est associé dans les esprits à certaines caractéristiques mentales, comme être incapable de se contrôler ou encore être obsédé par la nourriture. Enfin, du coup, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre finalement l'apparence physique et des qualités, enfin plutôt des défauts qui sont associés aux personnes grosses. Et du coup, cette autocensure vient, enfin, j'ai l'impression aussi du fait qu'ils tombent en fait complètement à côté de l'idéologie néolibérale qui exigerait des individus un self-control. Et du coup, peut-être à présent, on pourrait discuter un peu de l'idéologie grossophobe, comment elle s'insère dans la société néolibérale et est-ce qu'elle révèle en fait des préconceptions que les individus ont des personnes grosses.
Il faut vraiment se rappeler que le problème actuel de la grossophobie, c'est pas uniquement la médicalisation du corps gros, mais c'est de manière plus large la moralisation du corps gros et le fait que le discours médical va venir renforcer et justifier d'une certaine manière les arguments moraux qui sont utilisés depuis des siècles contre les personnes grosses, puisqu'elles sont effectivement accusées de ne pas savoir se contrôler, d'être fainéante, etc., etc. C'est vraiment l'image caricaturale de la personne grosse qui va être devant sa télé à manger des chips et qui est incapable d'aller manger des bons fruits et légumes qu'elle aura préparés après avoir fait 2 heures de vélo. Enfin, voilà, c'est un peu la caricature. Et donc, ça correspond tout à fait à l'idéologie néolibérale, puisque l'une des valeurs qui est souvent portée et qu'on peut entendre régulièrement dans les discours politiques, c'est vraiment le fait de se prendre en charge, de prendre en charge sa santé, d'être responsable de soi, mais aussi une forme de volontarisme un petit peu fort sur le fait que voilà, il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours faire des choses, etc. Et c'est un peu la contre-image caricaturale de celle que véhicule la grosseur. Donc les personnes grosses sont souvent victimes effectivement de cette idéologie néolibérale et c'est d'autant plus le cas qu'elles sont plus fréquemment membres des classes défavorisées et que par conséquent elles sont déjà victimes de la société néolibérale et déjà victimes des stéréotypes qui portent sur les classes populaires qui sont assez proches en fait hein, et qui sont assez vieux hein, dès le 19e siècle qu'on voit associer des discours sur le fait que l'ouvrier c'est un fainéant, qu'il n'a pas de morale, qu'il boit trop, etc. Donc on va retrouver vraiment beaucoup de points communs sur ces dimensions-là. Ce qui est plus récent, c'est plus cette valeur de prise en charge de soi, et notamment au niveau de la santé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a cette espèce de croyance que si on ne fait pas attention à sa santé par l'alimentation, c'est-à-dire si on ne se renseigne pas sur comment faire pour être en bonne santé, bien manger, etc., équilibré, suivre les normes nutritionnelles, quelque part, on serait un mauvais citoyen. C'est-à-dire que du coup, on n'a pas pris en charge sa santé. Alors en France, c'est un tout petit peu modéré par la dimension collective de la prise en charge de la santé, mais par exemple aux États-Unis, où il y a une dimension très individuelle, très individualiste, même dans le financement de la santé, voilà, les gens n'ont pas envie de payer pour quelqu'un qui serait gros parce qu'il ne prend pas en charge sa santé. Ce qui est assez contradictoire avec le fait que les États-Unis ont une prévalence de surpoids et d'obésité beaucoup, beaucoup plus importante que la France. Mais voilà, ça fait partie de la croyance un petit peu qu'il faut se prendre en charge, il faut s'occuper de soi, et en particulier dans le domaine de la santé. Et quand je dis domaine de la santé, hein, j'inclus le domaine de l'alimentation à l'intérieur de ce domaine de la santé, puisque là, l'alimentation est vraiment prise comme un outil pour être en bonne santé. Ça, je trouve que c'est important de le rappeler. C'est pas juste il faut bien manger parce que ça fait partie des normes collectives et sociales, mais c'est il faut bien manger pour être en bonne santé.
Oui, et par rapport à ça, c'est intéressant que vous parlez du cas américain, puisque donc il y a un très bon ouvrage qui, je trouve, complète assez bien vos travaux de Julie Gutman, qui s'appelait Waiting In, Obesity, Food Justice and the Limits of Capitalism, qui, il y a quelques années, essayait de montrer le lien qu'il pouvait y avoir entre l'obésité et le capitalisme, en essayant de casser un peu les clichés grossophobes sur ce lien, comme quoi c'est parce que les gros mangeraient beaucoup trop, qu'ils manqueraient de volonté, etc., etc., et en montrant plutôt comment est-ce que, en fait, il y avait des causes de l'obésité qu'on pouvait trouver directement plutôt dans le mode de production capitaliste, avec notamment l'usage massif de perturbateurs endocriniens, l'utilisation de produits chimiques, notamment dans l'agriculture américaine, mais évidemment aussi dans l'agriculture française, et que ces perturbateurs endocriniens sont très fortement suspectées, même si c'est très difficile toujours de démontrer ce genre de choses, mais participeraient justement de l'obésité. Et elle pointait comment est-ce que finalement le discours grossophobe était une manière aussi pour le néolibéralisme et le capitalisme américain, et ça marche aussi, je pense, assez bien pour la France, une manière finalement de rejeter la responsabilité sur les individus de problèmes sociaux beaucoup plus larges. Et on pourrait dire même que d'ailleurs la grossophobie, puisqu'elle elle favorise des troubles du comportement alimentaire qui peuvent mener à l'obésité, on peut dire aussi que d'une certaine manière, la grossophobie est aussi une manière pour la société de rejeter la faute sur les individus et du coup de transformer un problème politique en un problème du coup moral, où on va moraliser donc les individus.
Oui, oui, mais c'est justement parce qu'il y a cette dimension morale, c'est-à-dire que si une personne veut donner l'impression qu'elle a un statut moral supérieur à quelqu'un d'autre, du coup le poids va vraiment servir de moyen en fait à quelque part à montrer que voilà, qu'une personne va être supérieure à une autre parce qu'elle aurait un corps plus mince, donc elle aurait réussi à maintenir sa santé, à manger moins, à se contrôler, etc. Donc ça, c'est vraiment tous les clichés. Ce que je trouve intéressant, moi, dans l'ouvrage de Julia Butman, c'est aussi, donc il y a effectivement cette dimension mode de production, effectivement le fait qu'on cache qu'il y ait des causes environnementales à l'obésité, qui commencent à être un peu connues, mais qui sont effectivement rarement montrées du doigt lorsqu'on cherche justement à comprendre un petit peu cette problématique. Mais elle montre aussi que les entreprises agroalimentaires cherchent aussi, quelque part, à vendre plus. Bon, ça paraît évident, mais vendre plus, justement, en créant des formes d'addiction à la fois chez le consommateur, donc par exemple en mettant plus de gras, plus de sucre, parce que du coup les individus vont avoir une appétence naturelle vers ces produits-là et donc vont revenir les acheter, mais également en transformant par exemple les pratiques alimentaires. Par exemple, le snacking, c'est le fait de manger un peu tout le temps, en fait, de consommer des produits, et lorsqu'on mange un peu tout le temps, il y a cette dimension aussi de prendre du coup des produits très industrialisés, qui sont prêts à manger, prêts à consommer immédiatement, et ça, c'est un peu des pratiques alimentaires qui ont été introduites en fait, poussées en fait par les entreprises agroalimentaires et qui correspondaient très bien au mode de vie américain où l'objectif était de ne surtout pas perdre en performance en termes de journée de travail et donc de s'arrêter le moins possible pour manger à midi, etc. Et donc justement de manger un peu tout le temps comme ça avec ce type de snacking. Donc en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a à la fois le mode de production, mais aussi il y a même plus généralement le mode de consommation qui peut être influencé par les entreprises agroalimentaires, exactement comme les entreprises de cigarettes ont essayé de donner l'impression que c'était cool de fumer. Il y a cette idée, voilà, qu'on va changer les pratiques alimentaires pour montrer que c'est cool de manger à tel type de produit ou à tel moment ou de manger tout le temps, etc. Donc ça, c'est intéressant de travailler sur cette question aussi des modes de consommation et plus généralement de travailler aussi sur ce qu'il y a à l'intérieur des aliments qui sont proposés. Il faut savoir qu'il y a quand même des lobbies qui sont absolument monstrueux, agroalimentaires, que ce soit aux États-Unis, en Europe, etc. Et que ces lobbies ont quand même pour objectif de faire en sorte de dédouaner systématiquement les entreprises agroalimentaires de la responsabilité, on va dire, des conséquences sanitaires potentielles de leurs produits alimentaires. Et quand je dis ça, je ne parle pas forcément que de la question de la grosseur, mais de manière plus générale des problèmes de santé qui peuvent être associés au fait de manger des produits très gras et sucrés. On peut être mince et faire du diabète. Ce n'est pas forcément lié uniquement à une question de la grosseur. Donc c'est vraiment une problématique transversale, mais qui va être pointée du doigt plus souvent lorsqu'on parle de la grosseur. Et ce qui est intéressant, c'est que les lobbies vont toujours essayer de ramener la responsabilité aux individus. Par exemple, le lobby du sucre va dire... Non, mais nous, on veut pas qu'il y ait un contrôle sur le contenu des aliments qu'on propose, parce qu'en fait, à partir du moment où les gens consomment nos produits dans un régime alimentaire sain, ils font du sport, etc., en gros, tout va bien. Et donc, il n'y a jamais de remise en cause, ils refusent toute remise en cause du fait que ce produit alimentaire, en fait, c'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui ont créé l'habitude de le consommer, c'est eux qui ont créé le désir de le consommer en le rendant cool, en le rendant à la mode, etc. Et il n'y a jamais cette réflexion un peu plus générale. Quand je dis ça, l'idée, c'est pas de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait ces produits, c'est pas forcément de dire qu'il faut nécessairement mettre une dimension morale sur tous les produits sucrés ou tous les produits gras, mais c'est simplement d'avoir un raisonnement un peu général sur comment fonctionne en fait le système agroalimentaire à l'heure actuelle, pour comprendre un peu aussi pourquoi est-ce que porter la responsabilité sur les consommateurs, c'est aussi une stratégie en fait utilisée par ces entreprises agroalimentaires, et qu'évidemment dans le cadre de la question de la grosseur, c'est une stratégie qui marche d'autant mieux que justement ces personnes-là sont déjà montrées du doigt comme des personnes qui ne mangent pas bien, etc., etc. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. Voilà, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut prendre en compte lorsqu'on analyse cette question-là.
Et j'ai l'impression qu'en plus, outre tous les éléments dont vous venez de parler, j'ai l'impression que même au niveau des États, il va y avoir des conseils nutritionnels qui vont être développés. vous le montrez dans votre article de manière un peu différenciée en fonction de chaque habitude nationale. Et finalement, que, bah, il me semble que Julie Gutmann, dans le cas des États-Unis, montre qu'en fait, ces conseils nutritionnels vont avoir, en fait, vont plutôt servir aux personnes minces pour en fait se rassurer sur leur moralité, en tout cas sur leur comportement alimentaire qui du coup est validé socialement, mais finalement bah, va pas avoir d'effet sur les personnes grosses parce qu'en fait ça sert soit à les culpabiliser ou bien juste parce que bah, soit c'est des personnes du coup qui sont finalement à la fois entre guillemets victimes des lobbies dont vous parliez auparavant, enfin, en tout cas toutes les techniques de marketing, etc., qui du coup bah, vont développer des sortes d'addictions. Mais enfin, en tout cas, du coup, elle montre l'effet assez différencié de ces conseils nutritionnels sur les individus et que finalement, bah, sur les personnes grosses, ça va pas. Et c'est pas des conseils qui sont là pour, entre guillemets, aider ces personnes. Et je mets des guillemets à aider pour souligner le caractère paternaliste, bien sûr, de ce genre de conseils nutritionnels.
Enfin, en fait, c'est, le problème, c'est que ces profils, ces conseils nutritionnels, ces normes nutritionnelles, on appelle même ça des profils nutritionnels éventuellement à un niveau réglementaire, c'est qu'ils sont faits, en fait, par des gens de classe supérieure, donc ils reflètent quand même beaucoup les manières de manger des classes supérieures. Alors, quand je dis ça, je dis pas qu'il peut pas y avoir des études scientifiques qui vont montrer hein, que certains produits nutritionnels ont plus d'effets sur certaines fonctions du corps et sont potentiellement meilleurs pour la santé, mais c'est vrai que, de manière générale, ces profils sont quand même faits par une partie de la population qui est quand même assez favorisée et qui souvent n'a pas forcément... peut avoir des difficultés personnelles par ailleurs. Hein. Il y a des personnes de classe favorisée qui sont grosses, mais n'ont pas forcément difficulté d'accès à ce type de la même manière que des personnes de classe défavorisée vont avoir difficulté à accès. C'est, Gutmann le montre effectivement dans son livre. Elle parle, si je me souviens bien, c'est la question de l'alimentation alternative, donc le fait de manger des fruits et légumes bio, voilà, de faire attention à son alimentation dans un sens qui en plus a une dimension morale très forte puisque ça prouve qu'on est vertueux puisqu'on est très écologique, etc. Donc là, ça englobe aussi l'alimentation dans une dimension morale un peu différente mais qui est complémentaire. Effectivement, si par ailleurs les personnes qui ont peu de moyens, peu de revenus, n'ont pas à leur disposition ces produits-là de manière fréquente dans beaucoup d'endroits et surtout à des coûts adaptés à leurs moyens, c'est effectivement extrêmement stigmatisant et c'est un discours uniquement paternaliste qui a vocation à stigmatiser les gens et qui sert à rien. Il faut quand même rappeler, alors les États-Unis c'est un peu l'exemple ultime, mais c'est quand même assez intéressant, il faut quand même rappeler qu'aux États-Unis il y a ce qui s'appelle des déserts alimentaires, c'est-à-dire des endroits où les gens n'ont pas d'accès à pied à des fruits et légumes. Et là je parle même pas de fruits et légumes bio. En fait ils n'ont pas accès à des fruits et légumes dans un rayon autour de chez eux à pied qui soit accessible. C'est-à-dire que du coup, toutes ces personnes qui habitent dans des espaces résidentiels et qui n'ont pas de voiture parce que ce sont des personnes qui ont très peu de moyens, ou des personnes âgées ou des personnes malades qui ne peuvent pas se déplacer en voiture ou qui n'ont pas de voiture, du coup, elles n'ont pas du tout d'accès à des produits comme les fruits et légumes. Du coup, il y a un énorme décalage entre d'un côté des normes nutritionnelles voilà, qui reflètent en partie la manière de manger des classes sup, mais qui ont une part de véracité scientifique en fonction des normes actuelles de la science. Mais par contre, du coup, qui ne sont pas du tout adaptées au fait qu'elles ne sont pas du tout applicables, en fait, par ces populations-là. Donc, effectivement, il y a un énorme décalage entre ces populations-là. Et encore dernièrement, je voyais une étude qui montrait que, voilà, dans les entreprises qui vendent des produits alimentaires à très bas coût, du type Lidl, Leader Price, des choses comme ça, où la qualité des produits nutritionnels qui sont vendus dedans n'a rien à voir avec la qualité des produits nutritionnels qu'on peut avoir dans des enseignes plus chères. Donc encore une fois, c'est facile de dire aux gens mangez ci, mangez ça, mais si ce qu'ils peuvent acheter en termes de pouvoir d'achat, ce sont des produits qui ne sont pas de très bonne qualité, nécessairement, du coup, on leur impose des normes qui ne sont pas applicables et on les culpabilise par rapport à ça, alors qu'en fait, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc là, il y a un vrai problème de non-applicabilité des normes actuelles. Et il faut quand même rappeler qu'indépendamment de ce qu'on disait tout à l'heure sur la question, effectivement, des responsabilités des entreprises agroalimentaires, la plus grande cause de prise de poids à l'heure actuelle, c'est la précarité. Et cette précarité, si elle n'est pas prise en compte, globalement, ça ne servira à rien. À partir du moment où les gens ont plus de moyens, un des premiers postes sur lesquels ils vont mettre de l'argent lorsqu'ils font partie des classes populaires, c'est l'alimentation. Parce qu'en fait, les gens, ils ont envie de bien manger. Et quand je dis bien manger, je ne parle pas uniquement de la santé, mais aussi en termes de saveur, etc. Donc globalement, voilà, il faut quand même avoir des messages qui sont applicables. La première cause de l'obésité, ça va rester la précarité.
Oui, et par rapport à ça, ce qui est assez intéressant dans l'argumentaire de Julie Gutmann, elle parle également donc de cette question voilà, des déserts alimentaires, Mais ce qu'elle montre, je trouve, de manière assez intéressante, c'est comment est-ce que des initiatives comme bon, manger bien, voilà, tout un mouvement, notamment aux États-Unis, s'adressent avant tout aux classes moyennes et aux classes supérieures et leur fournit une forme de moyen de distinction sociale, de valorisation individuelle qui est finalement totalement en phase avec l'idéologie néolibérale. Mais ce qu'elle montre, c'est même les limites d'un mouvement qu'on appelle aux États-Unis Food Justice, donc qui ressemble un petit peu au mouvement de la justice environnementale, qui essaie de lier du coup le mouvement de justice environnementale, les questions de racisme et de classe aux questions du coup d'environnement, d'exposition supérieure à des produits qui d'ailleurs sont des produits cancérigènes et aussi obésogènes. Mais du coup, elle montre que ce mouvement pour une justice, donc qui a des intentions très louables de permettre aux gens qui sont dans des déserts alimentaires d'accéder à une nourriture de bonne qualité et pas chère, favoriser le retour de petits commerces, etc. Elle montre que le problème avec ce genre d'approche, c'est que, bon, évidemment, déjà, c'est une goutte d'eau dans un océan. C'est également quelque chose qui va se focaliser sur la question de la consommation individuelle plutôt que la question, finalement, de la production et donc voilà de problèmes sociaux et politiques plus généraux. Et enfin, surtout, le problème avec des mesures, si effectivement on réintroduit dans des déserts alimentaires voilà, des supermarchés bio, pas chers, et même si on lit ça à la question de l'environnement, des parcs, etc., on sait très bien comment ça se passe, c'est-à-dire que ça va être le moteur d'une gentrification qui va faire que ben, les gens pauvres qui habitaient là vont devoir partir ailleurs dans des nouveaux déserts alimentaires et vont s'installer à leur place des classes moyennes qui ont l'argent et aussi l'idéologie qui va avec pour voilà, les consommer dans ces supermarchés bio. Donc, ce qu'elle montre bien, c'est en comment est-ce que finalement la question ne doit pas être traitée uniquement voilà, au niveau de la consommation, etc. Parce que finalement, on ne touche pas aux logiques de fond, comme vous l'avez dit, la précarité, la question voilà, des classes, qui sont vraiment au fondement finalement de à la fois des problèmes de santé liés à l'alimentation, plus en fait que de la question de l'obésité, parce que c'est des questions, comme beaucoup de gens l'ont montré, notamment Julie Gutmann, qui ne sont pas forcément les mêmes, même si dans l'imaginaire des gens, c'est la même chose, précisément parce que ça permet voilà, de rejeter la faute sur les gens, alors que les problèmes de santé, comme souvent ils sont liés, ils peuvent être liés à des facteurs plus environnementaux, liés à l'industrie, etc. Là, pour le coup, c'est moins facile de rejeter la responsabilité sur les individus que simplement en disant c'est le problème, c'est le poids, les gens mangent trop, etc. Ce qui là permet de déculpabiliser complètement la société capitaliste en général.
Oui, c'est sûr. Après, ce qui est vrai, ce qui est compliqué, mais je trouve que si je me rappelle un petit peu de son livre, c'est de pointer en fait toute la difficulté un peu de la manière de changer potentiellement les choses. Et c'est là où effectivement elle pointait des solutions qui ne sont pas forcément mauvaises de manière générale, mais qui ne sont pas adaptées en fait à la situation actuelle parce qu'elles ne prennent pas en compte le fait que, en plus, ça peut avoir effectivement des conséquences un petit peu négatives, un peu comme vous montrez avec la question de la gentrification. Après, je pense que de manière plus générale, ce que je trouve intéressant sur cette problématique-là, c'est que on n'entend pas forcément beaucoup la voix des personnes défavorisées. Alors, il y a quelques associations qui travaillent un peu sur ces problématiques-là, mais parce que de manière un petit peu caricaturale, on pourrait se dire bon, bah, la solution, ça pourrait être de lutter contre les entreprises agroalimentaires et la manière dont elles essayent de modifier un petit peu les pratiques alimentaires et les goûts des individus pour les faire correspondre à des produits. Sachant que, je précise, parce que c'est aussi la raison pour laquelle les entreprises agroalimentaires font ça, c'est que le gras et le sucre sont des produits peu chers, et c'est pour ça que très souvent, les mettre dans des aliments fait que ça permet de faire baisser le coût de production de l'aliment. Donc c'est aussi un intérêt, c'est pas ils font pas ça juste parce qu'ils ont envie de faire grossir les gens, mais en l'occurrence, ils font ça parce que ça leur permet de faire... de faire en sorte à la fois que les produits coûtent moins cher et en même temps il y a un effet d'addiction avec ces aliments-là qui fait que les gens vont revenir vers leurs produits alimentaires. Donc on pourrait dire bah du coup la solution ça pourrait être de lutter contre les entreprises agroalimentaires et de limiter par exemple les contenus des aliments, ce qui est pas forcément une mauvaise idée, mais encore une fois c'est pareil, ça peut aussi avoir des effets secondaires si en fait, encore une fois, on lutte que contre ça et on ne lutte pas contre la précarité de manière générale. C'est un peu la question qui s'était posée avec la taxe sur Coca-Cola, enfin la taxe sur le sucre de manière générale ou sur les sodas. sur la question de savoir que du coup on pénalise en fait des populations défavorisées qui n'ont pas forcément accès à beaucoup de loisirs ou beaucoup de produits, de biens communs pour se faire plaisir et pour lesquels l'alimentation peut être un des rares endroits où ils peuvent se faire plaisir et que du coup le sucre est évidemment un moyen de se faire plaisir et le gras, et c'est pareil pour tous les milieux, dans tous les milieux. Mais en l'occurrence du coup ça pénaliserait ces populations-là qui du coup si elles sont privées de ces produits-là ne trouveraient pas nécessairement, n'auraient pas forcément les moyens d'acheter d'autres produits équivalents, mais de meilleurs contenants, j'allais dire, et également de trouver d'autres formes de plaisir. Donc, encore une fois, il y a des choses qui sont des bonnes solutions, mais elles sont des bonnes solutions si elles sont prises dans un ensemble plus général de solutions. Et lorsqu'elles sont uniquement localisées, elles peuvent avoir des effets contre-productifs et du coup pénalisants, effectivement, pour certains types de populations, en particulier pour les populations les plus précaires, qui sont quand même les populations qui sont les plus concernées par le sujet. Voilà, je pense que c'est important de rappeler ça, qu'il faudrait qu'il y ait un travail plus général avec les populations concernées, mais il faudrait aussi qu'il y ait, c'est peut-être toute l'utopie, mais il faudrait qu'il y ait plus généralement des solutions qui soient imbriquées dans une réflexion plus générale sur la transformation du mode de transformation de la société, tout simplement. Tout simplement, c'est facile à dire. Mais...
Oui, on voit bien voilà, en quoi est-ce que finalement, un des problèmes par rapport à la question de la grossophobie, mais finalement comme dans beaucoup d'autres, c'est que l'enfer est un peu pavé de bonnes intentions et que finalement, il y a plein de mobilisations, de mouvements qui prétendent finalement aller contre l'idéologie dominante, mais qui en fait finalement reproduisent un schéma qui va faire porter la responsabilité du changement sur des solutions individuelles en termes de consommation, sans voir en quoi est-ce que finalement ça ne touche pas au fond du problème, qui sont précisément voilà, les inégalités liées au patriarcat, au capitalisme et aussi au racisme.
On peut peut-être parler de la question justement des solutions individuelles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un certain nombre de personnes grosses, voilà, n'ont pas forcément accès à ces réflexions-là et n'ont pas forcément la connaissance pour avoir accès à ces réflexions-là, mais cherchent quand même à essayer de changer la société par leur place, on va dire, par leur regard, leur place, leur position. Et donc, on voit actuellement, par exemple, des associations ou des individus ou des groupes qui essaient de valoriser, par exemple, la grosseur par la beauté, les normes esthétiques, les normes vestimentaires. Donc ça, c'est très souvent majoritairement féminin, ce qui est évidemment, encore une fois, lié aux normes esthétiques de la société. Et c'est à la fois très intéressant et en même temps, ça pose plein de questions. C'est très intéressant parce que ça permet aux individus déjà de lutter contre les représentations négatives de la corpulence, l'association entre forte corpulence et laideur, par exemple, ou entre forte corpulence et laisser-aller, ou entre forte corpulence et plein d'autres stéréotypes négatifs. Donc ces personnes-là remettent en cause ces stéréotypes, remettent en cause la norme de minceur, critiquent celle-ci, montrent que voilà, la beauté n'est pas nécessairement associée à la minceur, que la mode doit prendre en compte les personnes grosses, donc lutte aussi contre les discriminations vestimentaires qui sont flagrantes. Donc il y a vraiment un mouvement très intéressant de réappropriation de la grosseur grâce à la beauté. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte et qui ne doit pas être juste critiqué pour ses limites, mais qui doit vraiment être pris en compte comme un élément intéressant parce qu'il y a une forme de politisation quand même ou d'infra-politisation un petit peu dans ces luttes, qui sont des luttes à la fois individuelles, puisque c'est souvent une forme d'empowerment individuel, mais qui sont aussi des luttes collectives au sens où ça passe très souvent par des groupes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, etc., où les personnes se soutiennent, etc., et parfois enrichissent comme ça leurs connaissances sur les problématiques et se politisent davantage. Maintenant, c'est vrai que ces moyens de lutter contre la norme grossophobe de la société sont aussi limités parce qu'effectivement, elles rattachent du coup toujours la question de la féminité à la question de la beauté, la question du corps, à la question du il faut forcément être belle. Et en plus, les beautés, les corps qui sont présentés gros sont très souvent des corps qui sont quand même normés par ailleurs, c'est-à-dire que c'est rarement les personnes les plus grosses qu'on voit, ça va être rarement des personnes racisées, des personnes handicapées, ça va être rarement des personnes qui n'ont pas une morphologie en S comme la mode M ou avec un joli visage, etc. Donc là, on va retrouver en fait plein de normes de la société qui vont se retrouver exactement dans ces mouvements, même s'il y aura eu effectivement un petit décalage, un petit pas de côté par rapport à la norme de minceur habituelle. Donc je pense que c'est des mouvements qui sont très intéressants parce que c'est souvent une première marche de réflexion, une première marche de réappropriation de soi pour des personnes qui sont souvent esselées parce qu'elles sont victimes de stigmatisation quotidienne et qu'elles n'ont pas forcément d'appui dans leur entourage, etc., pour lutter contre ça. Et c'est des formes parfois de politisation, par le biais de la discussion, du raid de la réappropriation du corps, etc. Et en même temps, c'est vrai que ce sont parfois des luttes qui sont limitées lorsqu'elles rattachent uniquement la corpulence à la beauté ou quand elles limitent justement cette question de la beauté à des normes, à d'autres normes en fait, mais qui sont également très restrictives. Donc je pense que c'est intéressant de voir les enjeux en fait de ce type de lutte qui sont en fait des mouvements qui ont commencé aux États-Unis bien avant qui a pu commencer en France, qui ont commencé principalement, alors ça existait avant Internet et les réseaux sociaux, hein, il y avait déjà les défilés de mode, etc., avec des personnes grosses, mais qui ont vraiment pris leur ampleur là récemment avec Internet et les réseaux sociaux et qui se sont beaucoup développés depuis une dizaine d'années en France. Donc je pense que c'est vraiment un élément complexe comme tous les faits sociologiques, mais avec des éléments de remise en cause de la norme et puis à l'inverse des éléments un petit peu d'intensification de la norme sur certains aspects et là en termes de lutte anticapitaliste aussi avec une intensification de la norme capitaliste puisque l'objectif c'est quand même de consommer de la mode, d'acheter des produits de beauté, des produits vestimentaires, de se faire maquiller, de se faire looker, de se faire photographier, etc., qui sont quand même qui ont des coûts importants. Et encore une fois, les personnes les plus précaires qui ont souvent du mal à s'habiller parce que les vêtements pour les personnes grosses peuvent être chers ou qui ont juste du mal à s'habiller parce qu'ils ont peu d'argent et qui du coup vont être aussi soumis à cette nouvelle injonction de... Avant, ils étaient soumis à l'injonction de « tu es gros ou tu es grosse et donc tu n'es pas beau » et maintenant c'est « tu es gros et tu es grosse et tu devrais aussi faire comme les autres qui sont beaux, prendre soin de toi, etc. » Et on retrouve à nouveau cette injonction néolibérale d'apprendre soin de soi, soin de son apparence physique, etc. Donc il y a une forme de déplacement de la norme qui est quand même intéressante, hein, encore une fois, hein, je pense que c'est intéressant de pointer qu'il y a quelque chose là qui se joue, mais en même temps qui est limité aussi du fait que ce déplacement de la norme, il est quand même porté par une nouvelle normalisation esthétique, en fait, d'une certaine manière, dans ces milieux-là, encore une fois, hein, parce que malheureusement, on voit un petit peu des prémices d'une médiatisation de ces nouvelles, de cette visibilité des femmes et des hommes gros, enfin, principalement des femmes grosses, mais ça reste quand même assez limité, et même s'il y a quelques mannequins maintenant... qu'on appelle grande taille, ça reste limité. Et alors là, c'est encore plus caricatural chez les mannequins grande taille que sur les réseaux sociaux. Ce sont vraiment des personnes qui correspondent exactement à la norme habituelle esthétique. Simplement, elles ont 20 kilos de plus. Et voilà, et on n'est pas du tout dans une représentation de la population grosse de manière générale.
Ce qui est intéressant, j'ai l'impression, parce que vous disiez du coup que finalement, ces mouvements body positive, comme on les appelle, il me semble, du coup, recréent une norme divergente soit de la norme grossophobe, mais en recréer une. Et en même temps, la réponse que ces mouvements suscitent, notamment sur les mouvements sociaux, mais pas que, par des personnes grossophobes, qui va souvent être de dire vous prenez le fait de ne pas être en bonne santé. Finalement, c'est intéressant parce que à la fois, enfin, parce que là, du coup, on retrouve le healthism de toute cette idéologie de la santé qui va vraiment être une réponse même à des mouvements qui justement, on ne veut pas du tout parler de santé, mais simplement de représentation ou d'accès aux vêtements de manière plus terre-à-terre. Et encore une fois, ça va être l'argument massue de finalement, vous prenez la mauvaise santé qui va leur être présentée par leurs opposants grossophobes.
Oui, effectivement, ça invisibilise d'autres problématiques et ça laisse penser parfois que la question de la grosseur, c'est qu'une question en fait esthétique et qu'il n'y a pas forcément des problématiques en termes de discrimination par ailleurs. Donc ça, dans ces cas-là, c'est effectivement un problème parce qu'on peut effectivement être tout à fait à la mode et correspondre à des normes esthétiques et être grosse, par exemple, en tant que femme. Et en même temps, ça n'empêchera pas d'être discriminée dans le monde du travail ou chez le médecin, hein, ça malheureusement. Donc effectivement, c'est un problème lorsque ça invisibilise ces problématiques-là et lorsque ça invisibilise les personnes les plus grosses en montrant uniquement des personnes qui sont un peu grosses, puisque c'est souvent le cas. Et d'ailleurs, on voit souvent des débats sur est-ce que ce sont uniquement des personnes en surpoids qu'on voit, par exemple, et pas forcément très obèses, ou est-ce que ce sont des personnes qui sont ce qu'on appellerait rondes et qui sont pas forcément grosses. Et très souvent, voilà, lorsque les personnes qui sont vraiment grosses disent « mais nous aussi, on veut être visibilisées », il peut y avoir des personnes qui le sont un peu moins et qui vont dire « non, mais nous, au moins, on est en bonne santé ». Donc là, on retrouve à nouveau les mêmes stéréotypes sur les problèmes de santé liés à la grosseur, etc. Donc après, voilà, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait aussi une variété de luttes dans ces mouvements. Et pour le coup, on voit exactement la même chose dans tous les mouvements. Je pense qu'il ne faut pas remettre non plus des normes et de la morale en tant que sociologue. Et donc l'idée, c'est pas de dire c'est pas bien ou c'est bien, c'est juste de dire voilà un petit peu ce qu'on peut voir, voilà ce que ça a comme effet, et voilà un peu les limites de ça par rapport à d'autres groupes qui vont aller, eux, travailler sur d'autres questions, mais qui peut-être, eux, vont aussi avoir des limites. Par exemple, des groupes qui vont travailler sur la discrimination médicale et professionnelle, mais pas du tout sur des questions de réappropriation de soi. C'est aussi une limite, parce qu'en fait, beaucoup de personnes grosses n'ont pas, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas forcément victimes de discrimination au quotidien. Et donc, elles, leur problème, c'est surtout l'image de soi, au sens fort du terme, c'est-à-dire vraiment l'estime de soi, le fait de se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps, et c'est ça qui fait qu'elles vont oser aller faire une activité, aller rencontrer des gens, aller se mettre en couple, etc. Et c'est pas du tout anodin, et je pense qu'il faut pas non plus uniquement, encore une fois, différencier uniquement ce qui serait de l'ordre des vraies discriminations, de l'ordre de ce qui serait pas des discriminations. En fait, voilà, il y a plein de choses qui sont très importantes dans la vie d'un individu, et la réappropriation du corps, la réappropriation de la grosseur, si pour certaines personnes ça passe par des normes esthétiques classiques, on va dire, un petit peu, voilà, mainstream, et ben pourquoi pas si par ailleurs, elles, ça leur permet effectivement d'être mieux dans leur peau et de pouvoir juste vivre au quotidien normalement, en fait. Parce que très souvent, ce que veulent ces personnes, elles veulent pas, elles sont pas forcément révolutionnaires, elles sont pas forcément radicales, elles ont des opinions politiques aussi variées que toutes les personnes qui sont pas grosses. Et donc, pour beaucoup d'entre elles, ce qu'elles veulent, c'est aussi vivre normalement, c'est-à-dire vivre en étant invisible au sens public du terme, c'est-à-dire pouvoir aller se promener dans la rue et ne pas avoir quelqu'un qui vient leur taper sur l'épaule pour leur dire qu'il faudrait qu'elles fassent un régime ou aller voir le médecin, etc., etc.
Oui, et par rapport à ça, un point qu'on n'avait pas encore abordé et que je trouve quand même important, c'est qu'on a parlé évidemment de tous les secteurs, disons, du capitalisme qui sont à l'origine d'une partie des problèmes de santé actuels, que ce soit, disons, des industries agroalimentaires qui produisent énormément d'aliments riches en sucre et en gras ou qui produisent aussi des perturbateurs endocriniens cancérogènes et obésogènes. Mais il y a aussi d'autres industries qui bénéficient énormément finalement de la grossophobie. C'est l'industrie en fait de la minceur ou l'industrie de l'apparence physique plus généralement. Julie Gutmann donne quand même des chiffres assez impressionnants en termes de voilà, plusieurs centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires par an sur toute l'industrie des régimes, l'industrie donc des compléments alimentaires, etc., etc. Est-ce que vous pourriez un petit peu parler de cette industrie, de son ampleur? Parce que souvent, c'est quelque chose qui est assez méconnu. On parle beaucoup quand même un peu plus quand même de la question des multinationales de l'agroalimentaire, mais finalement, on parle peu finalement des entreprises qui font de l'argent sur cette espèce d'obsession dans la société, sur la santé, mais finalement qui passe quasiment exclusivement par la question du poids et de l'apparence, parce que finalement on ne va pas tellement se préoccuper des problèmes de santé causés par l'alimentation que peut rencontrer une personne mince ou normale en termes d'IMC.
Alors ça peut être aussi des entreprises agroalimentaires. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui jouent un peu sur les deux tableaux. Parce que par exemple, tous les produits alimentaires minceurs, vous allez acheter un plat tout fait qui va vous dire que grâce à ce plat tout fait, vous allez perdre du poids, c'est complètement vendu par des entreprises agroalimentaires. Après, c'est vrai qu'il y a aussi des entreprises pharma ou qui sont effectivement dans les secteurs de la santé qui vont effectivement jouer sur cette grossophobie pour essayer de pousser les gens à perdre du poids et qui vont, par exemple, leur vendre des crèmes minceurs, des coupe-faim, des gélules miracles. Il y a une diversité de produits pour perdre du poids qui est assez impressionnante. Et ça va des choses les plus anodines, des choses qui sont potentiellement très graves et très dangereuses pour la santé, et en particulier des choses qui sont complètement interdites aussi et qui sont vendues sur Internet par des charlatans. Donc on a vraiment effectivement un marché économique sur ça, sur les produits minceurs, au sens très large du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut aider les gens à perdre du poids. Et eux, ils surfent évidemment sur les dangers de l'obésité et ils vont effectivement essayer, c'est plutôt des gens, des entreprises qui vont essayer de faire du lobby, par exemple, pour défendre effectivement l'idée que l'obésité, c'est une maladie très grave, voire même essayer de faire bouger les seuils de l'IMC qui sert à définir le surpoids et l'obésité, etc., ou les différents niveaux d'obésité. Et eux, ils vont plutôt essayer de dire oui, mais dès le surpoids, c'est dangereux, etc. Et on voit qu'ils essayent de faire baisser la norme, par exemple, de qu'est-ce qui serait dangereux pour la santé. Donc ça, je pense que c'est assez important, effectivement, de rappeler que évidemment, il y a des gens qui ont un intérêt à ce qu'il y ait des personnes grosses qui aient envie de maigrir. Ça, c'est très clair. Et ça, je parle des produits minceurs, mais il y a effectivement tous les produits, du côté de la mode, du côté des esthétiques. Il y a effectivement aussi des normes, des entreprises qui peuvent avoir un intérêt aussi à ce que les gens aient envie de maigrir. Alors, ce qui est un peu paradoxal du côté de la mode, c'est que d'un côté, On voit quand même une norme de minceur qui est extrêmement importante et qui peut pousser les gens à les culpabiliser, les personnes grosses, et les pousser à vouloir maigrir, puisqu'on ne voit quasiment que des mannequins minces, et quand je dis mince, c'est plutôt maigre. Mais à l'inverse, et c'est, ce qui est assez intéressant, c'est que pendant très longtemps, même si ça commence un peu à changer en France, mais pendant très longtemps, par exemple, ces entreprises-là proposaient assez peu de vêtements adaptés à la taille des personnes grosses. Ce qui est intéressant, parce que du coup, ça montre bien que, en fait, c'est tellement stigmatisant, la personne grosse est tellement stigmatisée, qu'en fait, elle n'est même pas considérée comme une consommatrice comme une autre. C'est-à-dire qu'elle est complètement invisibilisée, et alors qu'on pourrait imaginer, bah voilà, finalement, une entreprise, ce qu'elle veut, c'est gagner de l'argent, donc elle pourrait vendre des vêtements à une personne qui fait une taille 60. En fait, non, parce que ça va toucher son image de marque si on voit qu'effectivement, elle vend des produits en taille 60 et que personne ne veut être associé aux personnes grosses. Donc, il y a un peu cette double ambivalence du côté des marques un peu de mode, de vêtements, etc. Néanmoins, effectivement, il y a quand même, de manière générale, un intérêt global à la fois à pousser les gens à vouloir maigrir, mais aussi de manière plus générale à valoriser la minceur. Et pour le coup, les entreprises mode s'appuient un peu sur ça, c'est-à-dire sur l'image un petit peu de la minceur comme la beauté ultime, etc. On le voit bien, par exemple, justement, avec les mannequins ou les top modèles, où la norme de poids, la norme pondérale, a beaucoup baissé depuis une centaine d'années. Et où, effectivement, la corpulence moyenne des mannequins et top modèles, maintenant, n'a rien à voir avec celle qu'elle était il y a 100 ans, même il y a 50 ans, donc on voit bien qu'il y a une valorisation extrême de la minceur qui relaie complètement une partie de la population de plus en plus grande dans le champ de ce qui serait la normale ou ce qu'il ne faut pas être, la déviance corporelle, etc., etc. Donc voilà, je pense que c'est important de rappeler qu'effectivement, il y a des lobbies financiers d'un côté, mais il y a aussi des lobbies, qu'on pourrait dire des lobbies idéologiques ou des lobbies symboliques, qui eux ont plutôt vocation à s'éloigner en fait des personnes obèses pour garder en fait leur image de marque et garder un peu une représentation d'elle-même, encore une fois, en termes d'excellence morale, de nous, on est mince, on est beau, on est riche, qui sont très souvent des représentations qui sont associées. Hein. La jeunesse peut être associée en plus, mais c'est très souvent voilà, la richesse, la beauté, la minceur, ça va être vraiment trois éléments qui vont être extrêmement associés et qui vont être valorisés, encore une fois, dans une dimension très morale de réussite, tout simplement, dans la société. Et on le voit bien que c'est vraiment considéré comme une valeur dans la société, d'être mince, maintenant de plus en plus, c'était déjà le cas chez les femmes, mais c'est le cas de plus en plus chez les hommes, où maintenant, dès que vous atteignez un certain milieu social, c'est très compliqué d'être gros, c'est d'autant plus stigmatisé que dans votre milieu, personne ne l'est, et c'est vraiment considéré comme une faute morale de l'être.
Oui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que finalement, on voit bien comment est-ce que finalement notre société est plus que obésogène, en fait, finalement, le principal problème, c'est qu'elle crée un rapport compliqué, négatif à l'alimentation, principalement donc chez les femmes, les personnes racisées et les classes populaires, et que finalement, à la fois les entreprises en bénéficient économiquement, que ce soit les industries productrices d'alimentation ou les industries de la minceur, mais également les classes dominantes en bénéficient aussi symboliquement, puisque ça leur offre un moyen de distinguer, de valoriser leurs propres normes sociales.
Oui, alors là, du coup, je pense qu'on pourrait reprendre un petit peu les analyses qu'avait fait Bourdieu sur la question de l'école, c'est-à-dire que l'école sert un petit peu à légitimer socialement des valeurs qui sont celles des classes supérieures, en faisant comme si voilà, que c'était uniquement de la méritocratie, alors qu'en fait c'est une légitimation d'un mode de vie particulier qui est celui des classes supérieures. En fait, on peut voir la même chose effectivement dans le cas de la grosseur, c'est que la norme de minceur étant quand même principalement portée par les classes supérieures, du coup la minceur étant une forme d'excellence morale, ça devient une forme de distinction effectivement de ces personnes principalement de milieu populaire qui n'arrivent pas à être justement minces et donc qui n'arrivent pas à atteindre cette excellence morale. Et c'est là où ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que c'est souvent associé à une forme de classisme, au sens où on va aussi associer les membres des milieux populaires à des valeurs morales, à des valeurs d'immoralité en termes de comportement, d'action, etc., de prise en charge de soi, etc. Donc je pense que ça c'est vraiment important. Encore une fois, la grosseur s'est associée de manière, en tout cas symbolique, très clairement aux membres de milieux populaires. Et ça on le voit dans les représentations de manière générale, de manière assez évidente. On voit rarement des personnages, même dans les médias, hein, on voit rarement de personnages qui vont être très gros et qui vont être associés aux classes supérieures. Et c'était le cas très, 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 très clairement chez les femmes. Et c'est de plus en plus le cas chez les hommes. Chez les hommes, il y avait encore des représentations qui étaient un peu différentes, puisque les normes de masculinité faisaient qu'avoir un corps un peu solide, un peu costaud en termes de muscles pouvait être associé à des formes de corpulence importantes, etc. Maintenant, ça devient de moins en moins le cas, et notamment chez les classes sociales éduquées au sens du niveau d'études. Très clairement, la grosseur est vraiment l'exemple corporel à ne pas suivre, et au contraire, il faut avoir une certaine forme de minceur. Alors, ces normes-là, elles ont évolué historiquement, mais elles sont aussi différentes hein, selon les pays. C'est pas, on est dans une forme d'uniformisation des normes sur ce sujet-là dans la plupart des pays du monde, mais il reste encore des pays où ces normes-là sont un peu différentes et où la grosseur peut encore avoir des significations différentes. Ils ne sont pas nécessairement associés à des valeurs morales négatives. Donc, je pense que c'est important de le rappeler, c'est que c'est pas, voilà, c'est une norme historique, c'est-à-dire que ça a évolué, c'était pas forcément le cas avant, et ça évoluera peut-être si les luttes collectives fonctionnent et si la société change. Il faut pas, voilà, partir sur le fait que ce serait quelque chose d'essentialisant au sens où c'est comme ça et ça restera comme ça. Non, on est vraiment dans un mouvement historique de représentations qui sont associées à des corpulences, à des corps, et qui sont évidemment historiques au sens où elles sont très souvent, voilà, portées par les classes dominantes d'une société à un moment donné. La signification de la corpulence a changé en partie au XIXe siècle parce que voilà, les populations les plus précaires ont eu accès à une alimentation de meilleure qualité et plus d'alimentation de manière générale. Les situations de famine se sont raréfiées, donc la grosseur, les personnes qui étaient... Parce qu'autrefois, la maigreur était vraiment associée à la pauvreté, à la précarité. Hein, ça paraît logique, les gens avaient peu à manger ou avaient des produits de très mauvaise qualité. Et progressivement, à partir du moment où les classes populaires ont commencé à grossir, les classes sociales supérieures ont commencé à se distinguer en commençant par les femmes, puisque c'est souvent les femmes, quand on parle du corps, qui sont là un petit peu au devant des normes. Et c'est comme ça que progressivement la norme de minceur a pris l'importance et s'est vraiment développée au XXe siècle. Tout ça accompagné bien évidemment d'un mouvement à la fois de médicalisation des corps, on l'a dit tout à l'heure, de médicalisation de la grosseur, et en même temps, et on l'a dit également, un mouvement financier, on va dire un mouvement industriel, où les entreprises à la fois agroalimentaires mais également pharmaceutiques ou esthétiques ou vestimentaires ont trouvé un intérêt également à ce renversement ou à cette évolution plus exactement des normes de corpulence.
Oui, et ce qui est intéressant par rapport au fait que effectivement c'est indéniable que effectivement les gens sont devenus plus gros au cours du XXe siècle et particulièrement depuis les années 1980, mais ce qui est contestable, en fait, c'est, et ça c'est un peu l'objet du livre de Julie Gutmann, c'est le fait que cette augmentation en termes de prise du poids est prise comme finalement le seul problème qu'il faudrait régler par des régimes, l'industrie de la minceur, etc., etc., et aussi par une culpabilisation individuelle, alors que, comme le montre Julie Gutmann, la prise de poids n'est pas forcément un problème en soi. Il y a des études médicales qui tendent à montrer qu'être en surpoids peut être un facteur protecteur en termes de santé. Et finalement, ça masque le fait que les vrais problèmes sont plutôt les industries chimiques et agroalimentaires, c'est-à-dire pas tellement la quantité de calories ingérées sur lequel on est obsédé. C'est le modèle, voilà, de la balance énergétique. Et donc, l'argument grossophobe classique, c'est de dire les personnes grosses le sont parce qu'il y a un déséquilibre, elles ne font pas assez de sport, elles ingèrent trop d'aliments, etc. Alors qu'en réalité, Julie Gutmann avance qu'en fait, il n'y a pas eu d'augmentation vraiment en termes de calories absorbées en moyenne par les individus aux États-Unis depuis le début, voilà, du décollage en termes de poids des années 80. Et que aussi, entre des classes sociales qui ont pourtant des indices de prévalence de l'obésité très différents, les classes supérieures et les classes populaires, il n'y a pas de différence non plus en termes d'absorption de calories. Et en réalité, pour elle, ce qui explique la différence en termes de prévalence de l'obésité, qui n'est pas la même chose encore une fois que la prévalence des troubles qu'on associe habituellement à l'obésité, c'est-à-dire le diabète, etc., mais que ça, ce serait en réalité beaucoup plus lié en fait à ce qu'il y a dans les aliments, mais aussi à l'exposition à des produits chimiques, que les vrais problèmes sont plutôt, voilà, du côté des industries chimiques et agroalimentaires, mais aussi de la grossophobie, et évidemment aussi du côté des inégalités sociales, de l'accès à un environnement sain, et aussi, mais pas que, à une alimentation plus saine, et en fait surtout aussi à un rapport plus sain à l'alimentation, ce qui demande évidemment d'en finir avec la grossophobie.
Oui, alors, moi je ne partage pas forcément tous les remarques de Julie Guzman, mais je trouve qu'elle pointe des éléments qui sont très intéressants sur le fait d'insister sur le fait qu'il faut prendre en compte la qualité de l'alimentation et notamment effectivement la présence de polluants divers et variés qui vont avoir un effet, par exemple, de dérèglement biologique du corps qui fait qu'effectivement le corps va plus métaboliser les aliments de la même manière et du coup va parfois grossir sans forcément effectivement qu'il y ait un lien direct avec le nombre de calories. Maintenant, moi, des données que je vois, par exemple sur la France, il y a quand même des différences en termes de calories, mais qui s'expliquent en fait assez facilement par ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si pour le même produit que vous achetez, la qualité n'est pas la même, le nombre de calories très souvent s'en ressemble. Si on prend un exemple, on achète un paquet de gâteaux lambda dans une enseigne un peu chic et le même ou l'équivalent dans une enseigne moins chic. En fait, s'il y a plus de sucre et de gras dans l'enseigne moins chic parce que du coup le produit coûte moins cher à l'achat et a été fabriqué de manière moins chère et que c'est pour ça qu'il y a plus de sucre et de gras, du coup nécessairement il peut y avoir une différence de calories qui n'est pas forcément énorme mais qui en fait sur le long terme peut être en fait pas si anecdotique que ça. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus mettre de côté cette question, je pense que c'est plus complexe que ça. Effectivement, la question de la calorie, si on prend uniquement ça, c'est hyper simpliste. Maintenant, elle n'est pas non plus complètement inutile, justement, lorsqu'on travaille sur le contenant des aliments et sur les stratégies, encore une fois, des entreprises agroalimentaires pour faire des profits supplémentaires. Après, je trouve que c'est intéressant ce qu'elle rapproche sur ça. Peut-être qu'il y a deux éléments qui sont encore une fois un peu complexes et je pense que c'est important à saisir, c'est cette question de la santé. C'est qu'elle a tout à fait raison lorsqu'elle dit qu'il faut faire attention à ne pas associer systématiquement la question de la grosseur à des problématiques de santé. Et très souvent, ça a été fait de manière extrêmement grossophobe et justement extrêmement culpabilisante en disant, voilà, encore une fois, les gens ne prennent pas en charge leur santé parce que voilà, ils font pas de sport, ils font pas d'alimentation, etc. Indépendamment des causes structurelles qui font qu'ils fassent pas ça. Mais alors qu'effectivement, c'est plus compliqué que ça, la question de la santé et de la grosseur, et vous citiez l'exemple du surpoids. Maintenant, il faut faire attention parce que d'un autre côté, un certain nombre de personnes grosses se battent aussi justement pour que la grosseur puisse être reconnue aussi comme une problématique de santé, et notamment éventuellement dans certains cas stratégiques comme une maladie. Et je pense que c'est important aussi de prendre en compte ces luttes-là qui vont revendiquer le fait que la qualification en termes de maladie ou en termes de handicap, par exemple, va permettre aux personnes concernées d'avoir accès à des soins de santé particuliers, va leur permettre d'avoir accès à des aides sociales particulières, etc. Et là, je parle du cas de la France. Donc, il y a vraiment des associations qui se battent pour ça. Et je pense que c'est important de prendre en compte que voilà, c'est pas juste, il n'y a pas juste des associations qui se battent pour dire la grosseur, c'est pas un problème médical, mais il y en a aussi qui se battent pour dire si ça peut l'être dans certains cas. Et voilà, donc je pense que pour faire le lien entre ces combats qui sont complémentaires, c'est vraiment de dire voilà, l'association n'est pas systématique entre la grosseur et la santé, et mettre uniquement les gens obèses dans un grand panier en disant ils sont gros donc ils ont nécessairement des problèmes de santé, c'est un vrai problème et c'est effectivement une problématique qui est très facile puisque ça permet de montrer du doigt, de désigner des coupables en fait, de tout désigner qui sont les personnes grosses elles-mêmes. Maintenant, de l'autre côté, ne pas du tout prendre en compte cette question de la santé, c'est invisibiliser aussi de très nombreuses personnes grosses qui ont des problèmes de santé et qui sont des problèmes de santé qui peuvent être liés à leur grosseur parce que la grosseur, à partir d'un certain moment, en fait, dérègle également le fonctionnement du corps et va aussi avoir des conséquences qui peuvent être graves pour les personnes concernées. Et c'est pour ça qu'il y a des associations qui se battent pour que ça puisse être reconnu. Donc c'est vraiment une question très compliquée et peut-être que l'une des manières de réfléchir à cette question, c'est de se demander ce que c'est que justement que ça, la grosseur et qu'est-ce que c'est que l'obésité. Est-ce que le problème, ce n'est pas un problème de définition? C'est-à-dire, là, à l'heure actuelle, lorsqu'on parle d'obésité, on va parler en termes d'indice de masse corporelle. Mais en fait, globalement, cet indice de masse corporelle, finalement, c'est simplement un outil en fait, statistique qui permet, en termes démographiques, de faire des courbes de population, des courbes de poids de population qui évoluent. Ce n'est pas du tout un indicateur médical à la base. Et en fait, ça a été utilisé comme un indicateur médical. Mais du coup, ça fait qu'on rassemble dans des catégories de poids des gens qui n'ont rien à voir. Et on peut avoir des personnes qui sont grosses et qui sont en bonne santé et d'autres qui sont grosses et qui ne sont pas en bonne santé. Et qui ne sont pas en bonne santé à cause de leur poids. Et je pense que c'est important de bien distinguer, en fait, différentes formes de grosseur et de voir qu'il y a des gens qui se battent pour des problématiques qui sont complémentaires plus que concurrentes, en fait, sur cette question-là. Mais effectivement, pour revenir à ce que vous disiez sur la question de la qualité de l'alimentation et notamment des perturbateurs endocriniens, il y a effectivement des enjeux là, environnementaux qui sont extrêmement graves et qui sont effectivement graves, notamment parce qu'ils touchent des populations qui sont déjà vulnérables par ailleurs du fait de la précarité, du fait que ce sont des populations racisées, etc. Donc ça, effectivement, il y a un enjeu de lutte environnementale et de justice sociale qui est un petit peu complémentaire à un enjeu de lutte anti-grossophobie. Et pour le moment, c'est vrai qu'en France, on voit moins cette problématique travaillée par les associations et les militants, parce que le militantisme n'est peut-être pas assez important France par rapport à ces questions-là, contrairement aux États-Unis où il y a peut-être plus de monde, tout simplement. Hein. Parfois, c'est juste une question de nombre de personnes. Et donc, je pense que c'est quelque chose qui viendra peut-être dans les prochaines années, justement, de faire des liens plus explicitement entre des combats contre la grossophobie et des combats pour une justice sociale et environnementale qui soit plus large et qui permette de faire des ponts transversaux entre des problématiques qui peuvent être proches, justement, en termes de santé des individus, indépendamment de leur corpulence. Où on peut effectivement avoir des éléments qui sont intéressants par ailleurs.
Oui, vous avez tout à fait raison, effectivement, de pointer le fait que en fait, il s'agit pas de évidemment d'aller dans une thèse ou dans une autre, mais que évidemment, ça peut être des luttes qui peuvent être complémentaires, c'est-à-dire lutter à la fois contre les problèmes de santé qui peuvent être liés dans certains cas à l'obésité et lutter contre la grossophobie. Ce sont évidemment des combats qui sont parfaitement complémentaires. Et effectivement, vous avez raison de pointer le fait que, de toutes les manières, en fait, un petit peu comme l'émancipation des femmes sera l'œuvre des femmes eux-mêmes, l'émancipation des gros sera aussi l'émancipation des gros et des grosses eux-mêmes, elles-mêmes. Et du coup, peut-être qu'on pourrait terminer sur parler un petit peu des luttes des gros, des luttes anti-grossophobie aux États-Unis et en France, même si on en a déjà un petit peu parlé.
Alors peut-être on peut résumer peut-être en France, et puis en fait il y a pas mal de choses qui se croisent avec les États-Unis, même si encore une fois je pense qu'aux États-Unis il y a un peu plus de diversité, tout simplement parce qu'il y a plus de nombres en termes numériques et qu'en plus historiquement les mouvements sont plus anciens. Mais en fait en France les mouvements ils sont un petit peu de trois ordres, et c'est effectivement, il y a des mouvements, des groupes, des individus, des militants qui vont être plus effectivement tournés vers la question de la réappropriation de soi. Donc ça passe par la beauté, mais ça peut passer par des activités de bien-être, etc., du soutien individuel. Donc là, c'est un petit peu des formes d'empowerment individuel par les personnes concernées elles-mêmes. Ensuite, il y a des mouvements qui vont plus concerner l'accès à la santé. Donc c'est ce que je disais il y a un instant. Donc des personnes qui peuvent même se définir comme malades, se définir comme patients, se définir comme association de patients. Et là, il y en a beaucoup. Et ce sont des individus qu'on entend peut-être dans la sphère universitaire, mais en fait qui sont quand même très nombreux. Et donc ce sont des personnes qui, elles, vont plutôt défendre un accès à la santé égal à toutes les personnes, lutter contre les erreurs médicales, lutter contre la grossophobie des médecins, essayer de travailler pour que les patients soient aussi au centre des dispositifs de santé publique. Donc par exemple travailler sur l'éducation thérapeutique des patients, etc. Donc là il y a vraiment un mouvement pareil d'appropriation un petit peu de cette question par des personnes grosses. Et là il y a la question de la chirurgie bariatrique aussi qui peut être un enjeu assez important et qui va être traité dans ce cadre-là. Et puis après il y a des associations qui vont être plus politiques, peut-être plus politisées, qui vont porter des messages plus radicaux en termes politiques, c'est-à-dire qui vont plus se positionner politiquement, alors que les deux mouvements précédents vont être peut-être moins directement politisés. Et là, dans ces cas-là, ça va être peut-être les mouvements qui vont porter peut-être effectivement les messages les plus proches justement des questions de justice sociale ou de lutte anticapitaliste ou de lutte féministe ou LGBT, etc. Et là, c'est plus dans ces mouvements-là qu'on va retrouver ce type de message, en essayant de faire des croisements entre les luttes féministes, par exemple, les luttes anti-grossophobie ou d'autres types de luttes. Et ces trois types de mouvements, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des connexions, hein. Il peut tout à fait y avoir dans les mouvements radicaux des messages pour la santé et des messages de réappropriation de soi et inversement, mais c'est vrai que c'est des tendances, les gens ne peuvent pas s'engager sur tout, c'est trop compliqué, et on peut voir ça dans n'importe quel mouvement social de manière générale. Les gens s'engagent aussi sur des choses qui les concernent peut-être plus à un moment donné de leur trajectoire, et donc on va avoir des gens qui vont plus s'engager dans ces trois formes-là à un moment donné de leur trajectoire, ou qui vont faire porter les objectifs de leur association plus dans un de ces différents types d'objectifs. Donc ce sont des types de mouvements qu'on peut voir aux États-Unis, avec encore une fois une petite nuance sur le fait qu'il y a un peu plus de militantes qui vont s'associer à des luttes peut-être plus environnementales ou encore plus politisées au sens encore plus radical du terme, plus anti-médecin, par exemple. Il va y avoir plus des mouvements comme ça aux États-Unis. Alors que c'est quand même un peu moins le cas en France. En France, la dimension médicale reste jugée intéressante, en tout cas à travailler, alors qu'il y a vraiment des mouvements aux États-Unis qui vont considérer que la grosseur n'étant pas un problème de santé, il ne faut pas travailler sur cette question d'une certaine manière, et il faut plutôt lutter contre toute association entre grosseur et santé. Donc voilà un petit peu les diversités, donc encore une fois, de mouvements qui sont assez complémentaires. Alors encore une fois, quand je dis complémentaires, ça ne veut pas dire que les gens sont d'accord entre eux. C'est le cas dans tous les mouvements sociaux, hein, c'est le cas dans la société de manière générale. Il y a des gens qui peuvent ne pas être d'accord sur ce que c'est justement que la grosseur, mais ça fait la richesse de ce mouvement social-là, qui existe depuis les années 90 en France, mais qui a vraiment pris, qui a eu plusieurs mouvements historiquement, donc qui s'est beaucoup développé dans les années 90 en France, qui a eu un peu une première vague d'action extrêmement intéressante et importante dans les années 2000, qui s'est un petit peu tarie à la fin des années 2000, et qui là, depuis quelques années, reprend vraiment de la force avec de nouveaux groupes justement, et aussi avec l'arrivée des réseaux sociaux et leur développement très important, et ça a vraiment redonné aussi un peu de force vive à ce mouvement de manière générale.
Oui, c'est une bonne conclusion, effectivement, de montrer finalement la complexité et le pluralisme qui existe dans les mouvements de lutte de gros et de grosses et contre la grossophobie. Et ça montre un peu plus généralement, finalement, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans cette émission, un peu la complexité de cette question de la grossophobie et la question, évidemment, qui va avec la question de l'obésité et de la société qui produit à la fois la grossophobie et l'obésité. Et on pense que c'est effectivement important de repenser pleinement la question de la grossophobie comme un problème politique, un problème social, et pas simplement comme une question de santé individuelle qu'on a tendance de plus à traiter de manière très unilatérale et que, comme vous l'avez bien montré, qu'il faudrait traiter de manière beaucoup plus complexe. Donc on invite celles et ceux qui voudraient approfondir justement cette question à se reporter donc à vos articles et à votre thèse, aux travaux de Julie Gutmann, mais aussi, même s'il y a plus de choses du coup aux États-Unis, aux travaux des Fat Studies, donc qui montrent bien un petit peu la richesse un petit peu théorique et critique qu'il peut y avoir sur cette question de la grossophobie et qui souvent est très peu connue en France, même dans les milieux militants, parce que précisément la grossophobie est considérée comme pas du tout un problème, soit comme une contradiction secondaire, et en tout cas pas vraiment comme un problème politique et social qu'il faudrait prendre au sérieux. Donc on vous remercie beaucoup, Solène Karoff, de nous avoir parlé de la grossophobie.
Merci de m'avoir donné l'occasion de parler.
Merci.
L'émancipation des femmes, ce n'est pas négociable. Le rapport entre les sexes est une construction sociale. Je ne suis la poupée de personne, je me fous de mon charme. Condition sine qua non, ne me libère pas, je m'en charge. Féministe radical, je te parle avec une arme. Je dépose une bombe dans la machine patriarcale.
L'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, travaillant mais sans trop réussir pour pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse, celle à qui on devrait faire l'effort de ressembler, je crois bien qu'elle n'existe pas.
Les luttes sont indissociables. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas choisir un jour d'être une femme, le lendemain d'être noire. Tous les enjeux sont interdéterminés.
Patriarcat, patrie, patriarcat, patrie.